Astronaut Podcast. Palmis Production. Velvet Cat. Francophonie, vous êtes là ou pas?
Mesdames, messieurs, bonjour. Oui, écoutez, nous recevons un autre invité de marque à l'émission. Il se passe de présentation, on peut le dire ainsi. Coconut Podcast aime bien dire qu'il est un enfant prodige de la belle province. Fondateur de l'organisme pour 3 points, aujourd'hui, on le voit de plus en plus comme documentariste. On a eu la chance de le connaître davantage dans ce domaine avec Briser le code. Mais aujourd'hui, tout récemment, il nous a présenté Ados et armées qu'on peut voir à Télé-Québec, messieurs, dames. C'est avec une immense joie que nous recevons cet entrepreneur social, avocat également. Et aujourd'hui, on le voit un peu plus, je dirais bien, comme chroniqueur sur les différentes plateformes. C'est avec une grande joie que nous recevons à Coconut Podcast, je dis bien, Fabrice Ville, messieurs, dames. Fabrice.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour. Comment ça va?
Ça va très bien, merci. Le début de 2024 se passe bien. Je te remercie. Et toi?
Ben écoute, ça va super bien. Merci de prendre le temps de nous demander comment qu'on va à Coconut Podcast. Écoute, du pain sur la planche. Je pense qu'on est à peu près dans la même galère. Alors, on travaille pour apporter du nôtre à la société québécoise. Fabrice, Coconut Podcast, on t'a déjà reçu à nos tout débuts. Ça va faire dans près de 2 mois, 4 ans que Coconut trime dur, parcourt le Québec. Fabrice Ville, toi-même qui as eu la chance d'être à la barre de deux grands podcasts, Balado, Sac passé, Un toit pour nous, à la barre de Radio-Canada sur audio. Peux-tu nous dire l'aventure de Coconut Podcast que tu vois aller dans ta lunette d'observateur, leader au Québec? Quelques mots pour Coconut Podcast? On t'écoute?
Oui, ben par rapport au podcast, si je comprends bien.
Oui, exactement. Ben
Oui,
oui.
ben en fait, écoute, tu me ramènes loin parce que moi, je me disais, ça fait peut-être 2, 3 ans qu'on a eu une entrevue ensemble. Là,
Oui,
tu me dis
c'est ça.
4 ans, puis là, effectivement, ça doit faire 2020. Si c'est 2020, c'est
Oui,
effectivement
c'est ça, exactement.
à peu près 4 ans.
Oui.
Ben écoute, d'abord, on se connaît, depuis longtemps. Donc,
Oui,
quand tu as lancé le projet, j'étais content de voir la genèse du projet. Je suis content de voir que le projet a évolué. Bon, je vois circuler les différents invités que vous recevez, puis ce sont de beaux invités. J'ai cru voir aussi que le podcast a reçu un prix pour sa
ouais.
contribution à la lutte contre le racisme. Donc, très fier, puis bravo pour le travail.
Ben écoute, merci encore une fois. Et on t'avait rencontré au forum sur la diversité, entre autres organisé par le Réseau pour la paix. Et toi-même, tu œuvres grandement pour rapprocher les communautés. Alors, c'est tout en ton honneur. Fabrice Ville, on t'a demandé comment tu allais. Alors là, maintenant, on va prendre la peine quand même de s'enquérir un peu de tes proches. Tu as deux femmes qui sont tes amours. On parle ici de maman, si tu me permets de dire son prénom, Rosie, et de ta copine, qui sont tes poteaux mi-temps dans ta vie actuellement et depuis toujours, là. Fabrice Ville, quel mot aurais-tu pour ces deux grandes femmes qui t'accompagnent à tous les jours dans le dur labeur qui est le tien? On t'écoute.
Ben, deux femmes que j'aime énormément. Donc, ma mère avec qui j'ai une relation qui évolue avec, je dirais, un souci de l'aîné, hein. Tu sais, quand les parents, quand on est des enfants, les parents sont des immortels. Là, le temps avance. Bon, ma mère a déjà été malade il y a plusieurs années. Elle a eu un cancer, elle s'en est remise. Mais au-delà de la maladie, c'est vraiment de voir l'âge qui prend, donc, qui prend le dessus aussi. Donc, pour moi, quand je vois ma mère, quand je pense à ma mère, c'est beaucoup avec ce souci-là que je pense à ma mère. Puis Marie-Dominique, ma copine que j'aime, on est ensemble, les deux, dans une période assez intéressante. Elle a quitté la vie dans le milieu politique, la vie professionnelle. Après environ 10 ans dans le milieu politique, elle a laissé pour explorer d'autres opportunités, d'autres avenues, et elle est présentement dans une période d'exploration qui est pas identique à la mienne, parce que moi j'ai des projets un peu professionnels comme pigiste, mais les deux sans emploi, disons à temps plein, 9 à 5, ça rend la dynamique quand même intéressante.
Excellent, excellent. Ben écoute, on est content de voir hein, notre enfant prodige bien entouré. On va pas faire de jaloux. Si on parle de maman, il y a celui qui t'inspire, celui qui a toujours été là pour te pousser. Hein. On se doit de lui rendre honneur aujourd'hui. On parle de Monsieur Léon, ton papa.
Oui.
On aimerait t'entendre avec tout le travail que tu fais. Comment est-il ce support si important dans la vie d'un petit garçon à papa? Alors, on t'écoute.
Et en fait, mon père est à la retraite. Puis à partir de sa retraite, il commença à voyager en Haïti beaucoup pour construire une maison qu'il s'était promis de construire sur le terrain qui appartenait à son père. Bon,
Il est
pandémie,
ingénieur, là,
il
selon
était
les versions
ingénieur
qu'on
aussi.
voit. Voilà.
Pandémie, crise politique en Haïti, crise sociale en Haïti font en sorte que c'est moins propice d'y aller. Donc, je lui souhaite, en fait, je lui souhaite, je nous le souhaite que la situation en Haïti s'améliore puis qu'il puisse accomplir ce rêve-là de construire cette maison-là. Mais autrement, il profite de la retraite. Puis une fois de temps en temps, quand il y a des petits projets ménagers ou d'entretien qui font appel à ses talents, je le vois content, tu sais, je le vois content par rapport à ces choses-là.
Tu le fais venir faire quelques petites jobines chez vous par moment?
Nous autres, on a un appartement relativement neuf, donc il n'y a pas
OK.
beaucoup de choses à faire. Donc, c'est je
Ah,
pourrais en inventer.
t'as répondu à la question. On est content de savoir que la petite famille va bien, Fabrice. Écoute, très rapidement, t'es super impliqué, moi-même dans le milieu éducatif. T'as une implication, ne serait-ce que par pour 3 points. Tu t'impliques dans les écoles, tu perds des mentors, des coachs de vie avec des plus jeunes ayant besoin d'un certain support, mais également, tu t'es lancé dans une nouvelle aventure depuis 2020. Tu me corriges. Dans cette aventure de documentaire, déjà, Briser le code, un franc succès dans les écoles du Québec, j'ai envie de dire, de la francophonie. Rapidement, est-ce que tu t'attendais à un aussi grand retentissement dans le milieu éducatif, communautaire, de ce projet qu'on t'a proposé, que tu as décidé d'embarquer? Rapidement, Fabrice, briser le code.
Je m'attendais pas à ça du tout. Je me suis lancé dans le projet de briser le code sans vraiment avoir un horizon de ce que ça allait devenir. Puis même, je dirais, c'est bizarre à dire, mais quand je me faisais filmer et tout, j'avais pas conscience pleinement que j'allais me voir à l'écran et que j'allais être vraiment dans un réel documentaire. Et tu l'as dit. C'est devenu un outil éducatif. J'en suis vraiment fier, j'en suis content, mais je ne m'y attendais pas, je ne m'attendais pas à ça, à ce point-là.
Écoute, tu répondais à certaines questions dans ton préambule du documentaire. Moi, je te le dis parce que je suis dans les classes, je reçois les commentaires des jeunes. beaucoup s'identifient à ton bol du riz, puis les gens, ils savent pas c'est quoi. Un super exemple dans le début de ton documentaire. Également, lorsque tu parles que tu as dû changer d'accent
Mais
pour
oui.
pouvoir t'adapter aux différents milieux, ça aussi, ça permet à d'autres de comprendre par moment. Moi-même, je le fais. J'adopte certains accents en fonction de la personne, de l'interlocuteur. Et ça, vraiment, tu démystifies pas mal de trucs avec tous tes invités, Andy Ho et d'autres, Tremblay, vers Ouachat Maliotenam, vers la côte nord, ouais, exactement. Ouais, c'est intéressant.
Dans ce documentaire-là, ça c'est la Côte-Nord. Écoute, ça m'échappe à sa date quand même, il y a d'un certain temps. Est-ce que je peux chercher?
Bien sûr, hey, écoute. On est là. Ça, c'est à Forestville. Entre autres, je pense que le jeune Tremblay, issu des communautés autochtones et blanches, eh bien, il relatait son expérience de vie. Je peux dire que les jeunes s'identifiaient, issus de l'immigration récente ou de plusieurs générations. Ce documentaire-là, il a retenti, là, je peux te dire. Moi, je l'utilise dans mes SAE, pour ceux qui veulent comprendre le jargon pédagogique, situation d'apprentissage et d'évaluation. Je peux te dire que ça marche grandement, là.
C'est Pessamite.
Pessamite.
Si
Ouais,
vous, parce
bon,
que si tu balances, ça date de quelques années, mais c'était
oui.
Pessamite qui l'était.
Pessamite. Bon, excellent. On a donné la bonne précision. Merci, Fabrice, toujours on point. Fabriceville. Déjà, ça, c'est une grande réalisation dans le milieu éducatif. Pour 3 points, on connaît l'histoire. Tu fais des conférences, des ateliers. Mais là, en 2023, tout récemment, tu vas nous arriver avec les productions déferlantes, avec ce documentaire Choc, ados et armés. Là, maintenant, toi, est-ce que tu es conscient lorsque Natacha Lavigne, hein, des productions déferlantes, productrices au contenu, je pense bien à la
Oui,
scénarisation.
exact.
Oui,
Scénariste, exact.
exactement. Ils vont t'approcher. Est-ce que encore tu pouvais même jauger du succès éventuel en moins de quelques mois? Ça devient déjà un incontournable dans le milieu éducatif. On t'écoute, communautaire des maisons de jeunes. On t'écoute, Fabrice Ville, là-dessus.
En fait, je dirais que le phénomène de ne pas être conscient du résultat du projet, il ne me quitte jamais parce que quand le projet est à sa genèse, je n'ai pas la prétention de dire, ah oui, ça va être un succès. Et j'avais conscience du potentiel
Okay,
parce
nice.
que j'avais fait briser le code, mais je dirais que j'avais plus de préoccupations dans le cadre de ce projet-là, parce que c'est un sujet qui est particulièrement sensible, les enjeux de violence. Comment en parler sans stigmatiser des quartiers, sans stigmatiser des communautés, en étant critique aussi quand il faut l'être aussi, sans vraiment mettre le poids sur les jeunes. Moi, tout le long de la démarche, j'ai eu ces questions-là, ces préoccupations-là. Donc, je me suis lancé là-dedans en voulant faire une contribution, parce que c'est la question de la violence armée, c'est un enjeu qui m'interpelle. Mais encore, je n'avais pas la prétention que ça allait avoir la réception que ça a eue. Puis je dois dire que ça a été un beau travail d'équipe. Tu as mentionné Natacha Lavigne, qui a été la productrice au contenu et la scénariste du dossier, qui a été un peu la pilote du dossier. Mais il y a toute une équipe derrière ça, autant à la réalisation, Gabriel Lajournade la joue son nom d'artiste, à la direction photographique. C'était un travail d'équipe qui a mené à ce qu'on a dans ce documentaire-là. Et d'avoir des jeunes aussi qui ont osé témoigner, soit à visage couvert parce que c'était des
Incroyable.
jeunes impliqués dans la criminalité ou les autres jeunes, sans eux, on n'aurait pas eu de documentaire.
Fabriceville, dans la classe primaire de Marissa. Marisa.
Oui, Marisa, oui.
Oui, tu as un jeune de 10 ans, jeune hispano-hablante, je pense bien, hein? Oui, d'Amérique du Sud. Et là, il nous fait un témoignage, mais là, c'est poignant. Puis même là, ça. Tu dis, ben, on n'a pas le choix d'en parler avec les plus jeunes. Ils parlent vraiment de bruit dans la ruelle. Eux autres, ils achetaient des fusils au Dollarama. Mais là, des fois, ils entendent des bruits dans la ruelle. Puis lui, avec ses bruits dans la ruelle, sa préoccupation, c'est d'avoir peur pour sa maman. Donc, tu vois que même les plus petits sont sensibles à cette question-là.
Eh
Et le
oui.
fait de leur avoir donné la parole, parce qu'à la toute fin de votre documentaire, vous dites que le dialogue, eh bien, est l'une de ces solutions. Et là, tu nous fais faire des découvertes. L'approche de Glasgow.
Oui.
Hein, je pense dans le Royaume-Uni, là, ils nous
Oui,
ont
oui,
pas
oui.
tenté quelque chose de plus qu'intéressant. J'aimerais que tu nous en parles de l'importance du dialogue et surtout avec les plus petits. Hein? Vous avez rencontré des jeunes qui nous donnent des exemples, 12, 13 ans, 14, 15, 16.
Ben oui.
Le dialogue et
Ben
également cette approche de Glasgow comme solution là, à ce problème de la violence
fait, il y a un ensemble de
armée.
choses. Il y a un ensemble de choses que je dirais par rapport à ce que tu as mentionné. D'ailleurs, le jeune dont tu parles, il a littéralement vu quand il est allé dans la ruelle, il a littéralement vu quelqu'un qui s'était tiré dans le dos. Donc, c'est pas rien, là. Il a été témoin, pas de l'acte, mais il a été témoin de la victime.
Un
Puis
trou
ça
dans
m'a
le dos, tu
frappé,
dis.
un
Un
trou dans
trou
le dos.
dans le dos.
Et ça m'a frappé de voir la manière dont il en parle. Puis moi, je me souviens, dans cette conversation-là, à la fin, je parle avec lui, mais avec l'ensemble des enfants, on ne le voit pas à l'écran, mais on a fait un tour pour savoir où ils en étaient. Ils étaient tous heureux d'avoir parlé. Ils étaient contents d'avoir eu l'occasion de partager qu'est-ce qu'ils vivent. Parce que si ce n'est pas à l'école ou dans les familles qui peuvent en parler, ils vont en parler dans la rue, entre eux autres, puis ça va demeurer des choses qui sont tabous, sur lesquelles les parents, les adultes n'auront aucun regard. Donc, d'ouvrir la conversation par rapport aux enjeux que les jeunes vivent, ça fait partie de la solution. Et une des choses dont on parle, non seulement dans le documentaire, mais moi, quand je suis dans les milieux communautaires, entre
Bien,
autres,
bien sûr, bien sûr.
a beaucoup de l'importance d'impliquer les parents dans les démarches. Les parents doivent être interpellés. Et les parents, il faut les soutenir, eux, mais aussi il faut les outiller, parce que des fois, les parents font face à des situations difficiles, ne savent pas trop comment les aborder. Donc, c'est de soutenir les parents dans cette relation-là avec l'enfant, mais aussi de soutenir les parents dans les problèmes qu'ils vivent au quotidien pour qu'ils puissent passer du temps avec leurs enfants. Et c'est en ligne avec la méthode de Glasgow, parce qu'en gros, la méthode de Glasgow, c'est une méthode de Glasgow, ville en Écosse. Et ils ont réussi par une méthode de concertation qui implique les policiers, mais qui implique beaucoup la société civile,
Civil, nice.
à réduire les enjeux, les problèmes de violence armée par une approche qui allie autant un meilleur accueil des nouveaux arrivants, qui allie aussi des solutions innovatrices à même les hôpitaux quand il y avait des victimes de crimes, il y avait des intervenants qui agissaient auprès d'eux parce que c'est un moment fertile pour qu'une personne change de trajectoire de vie. Donc ça, c'est un autre exemple.
Exemple.
Avoir des groupes anti-violence qui interagissaient avec les jeunes, de l'employabilité, de leur faire voir d'autres opportunités. Donc, c'est une panoplie, une batterie de choses qui ont été mises en place de façon concertée, qui ont eu du succès. À Montréal,
Le projet pivot, un projet pilote là qui est en train de se mettre en branle.
entre autres, on a le projet Pivot, qui est un projet d'accompagnement qui a commencé dans Rivière-des-Prairies et Montréal-Nord, donc à Montréal. C'est des projets, encore une fois, qui focusent sur les jeunes les plus à risque, de l'accompagnement de ces jeunes-là, qui fait en sorte que ces jeunes-là, justement, on le souhaite, vont avoir d'autres opportunités. Mais bien au-delà de Pivot, j'étais au deuxième forum contre la violence armée à Montréal cet automne. Il y a un ensemble d'acteurs qui étaient présents, qui réfléchissaient à cette question-là. Et en gros, le mot d'ordre, c'est la concertation, c'est la mobilisation, c'est d'impliquer l'ensemble de la société civile, c'est de ne pas penser qu'on peut juste attendre que des jeunes commettent des délits, puis faire en sorte que la police agisse, il faut agir beaucoup plus en amont avec une approche qui est de prévention plutôt qu'une approche de répression.
Quand même, pour prendre la balle au bond, dans les sommes qui ont été allouées afin d'essayer d'atténuer le phénomène, de résorber ce phénomène de violence armée chez nos jeunes, il y a 500 millions de dollars, tel que ça a été ventilé lors du documentaire et même dans tes sorties publiques. Il y a quand même un bémol. Tu soulèves la question avec l'équipe de production quant au montant qui est alloué à la répression purement et simplement. C'est presque une enveloppe de 250 millions qui est octroyée aux forces de l'ordre afin qu'elles puissent mener leur travail, des fois avec des groupes tactiques comme Eclipse. Est-ce que c'est vraiment la solution? En 20 secondes, ta réaction par rapport à la manière que ces sommes sont ventilées? On
Ouais,
t'écoute.
mais les données démontrent que il n'y a pas de corrélation directe entre plus de policiers et la diminution du crime. Donc, ce n'est pas toujours quelque chose qui fonctionne bien. Donc, autant réallouer plus de sommes à la prévention.
Oh. Ouais, on sent le juriste en toi, on sent le juriste en toi, monsieur Fabrice. Nouveau chef de police à Montréal, Fadi Daguerre, il était à Longueuil, on t'avait vu même l'entretenir lors de certains forums. Est-ce que tu vois aujourd'hui qu'il y a vraiment un travail qui va dans ce sens où ce qu'on veut pérer des agents de la santé publique avec des policiers sur le terrain. Est-ce que tu sens que c'est dans cette direction que le service de police, parce qu'on sent que quand même les crimes à l'aide d'armes à feu auprès des jeunes ont quand même relativement baissé là, ces derniers mois suite à la venue de M. Daguerre. Est-ce que tu aurais peut-être un petit commentaire rapidement pour nous, Fabrice?
Il faut faire attention qu'on regarde les chiffres. Il y a plusieurs personnes qui se connaissent en recherche qui disent même que les chiffres sont trop petits pour que les diminutions qu'on observe méritent d'être soulignées comme étant des diminutions significatives. Ce que je veux dire par là, si on avait 100 incidents puis on descendait à 70 incidents, c'est une chose. Mais si on passe de 10 à 7, ce n'est pas significatif. On parle juste de moins 3. On est à peu près dans les mêmes ordres. C'est un des éléments. Après, moi, je salue la présence de Fadi Daguerre comme chef de police. Je pense que c'est le mieux qu'on peut avoir dans une institution comme la
Merci.
police au Québec. Mais il faut comprendre que la police, ce n'est pas l'affaire d'un seul homme. C'est une question de culture. Et la culture policière en tant que telle doit évoluer. Puis la culture de la société vis-à-vis le rôle de la police doit être appelée à évoluer, selon moi.
Excellent. On termine l'entrevue sur hein, une autre vie que tu as, celle de chroniqueur à la presse. Écoute, il y a un premier article qui nous interpelle, moi-même, à Coconut Podcast, entre autres, étant prof de culture et citoyenneté québécoise, éthique et culture religieuse, la liberté d'expression. Tu titres le 4 décembre 2023, Liberté d'expression sélective. Pour ceux qui ne t'ont pas lu, on est dans une période où ce qu'on sent qu'il y a énormément de censure. Est-ce que tu sens qu'il y a une attaque frontale à la liberté d'expression en croisant ce que tu as écrit pour vulgariser pour nos auditrices et auditeurs? On t'écoute, Fabrice.
Oui, ben, si je le contextualise, c'est un article qui parlait de la liberté d'expression et qui donnait suite à une sortie de l'ONU par rapport à toutes les personnes et tous les groupes qui voient leur voix réprimée en lien avec qu'est-ce qui se passe à Gaza, en Palestine plus particulièrement. Et donc, c'était vraiment l'ONU qui était interpellée par rapport à cette question-là. Et ce qui était intéressant de noter, c'est que oui, il y a de l'antisémitisme, oui, il y a l'islamophobie. Et donc, on se retrouve à avoir plusieurs groupes différents qui se retrouvent victimes, en fait, des répercussions de ce contexte-là. Et ceci dit, particulièrement les groupes pro-palestiniens se retrouvent à être criminalisés, donc vraiment, ou associés au crime, pas tant criminalisés qu'associés au crime. Et ça, on le voit aux États-Unis, on le voit ici au Canada, on le voit au Québec. Et ça m'interpellait d'écrire sur cette question-là, parce que au-delà des désaccords, on peut, selon moi, pas se retrouver dans une société où qu'est-ce qui mène, c'est la loi du plus fort, et les gens qui ont peut-être plus de pouvoir se retrouvent capables de taire certaines voix. Et c'était un peu dans cet esprit-là que mon article a été écrit.
Excellent, excellent, car on sait que la liberté d'expression a beaucoup fait jaser il y a quelques années lorsqu'il y avait cette cause à la Cour suprême qui opposait Mike Ward à la Commission des droits de la personne du Québec, Jérémy Gabriel. Donc, lorsqu'on t'a vu ressortir, on pouvait lire un peu entre les lignes que voilà, ça t'agaçait un petit peu quand même, mais
Mais
quand
oui,
même un
tout à
bel
fait.
article.
Mais,
Oui.
tout à fait, ça c'en était un exemple. On a beaucoup invoqué la liberté d'expression par rapport au droit de rire de Jérémy Gabriel, donc jeune, qui avait une maladie congénitale. On a beaucoup invoqué la liberté d'expression par rapport au mot en haine, donc le droit de dire le mot en haine, spécifiquement à l'Université d'Ottawa, quand la professeure qui
Professeur
l'a
a été.
utilisé, Lieutenant Duval, dans un de ses cours, a été suspendue, à tort ou à raison. Elle a été
Elle a été
suspendue.
réintégrée, hein?
Elle a été ultimement, je crois, réintégrée. Je crois
Réintégrée.
effectivement, quand elle a été suspendue, ça a fait un tollé. On a fait un tourbillon avec ça au Québec. Le nombre de chroniques, ça s'est monté dans la classe politique québécoise et ça a vraiment fait parler. Et j'en suis de ceux qui croient que dans ce contexte-là, il me semble qu'elle aurait peut-être pu l'utiliser. Mais la question était comment ça crée un tourbillon dans ce contexte-là, alors que quand on regarde un jeune étudiant en médecine qui a été suspendu de son programme en raison de publications pro-palestiniennes, à part une chronique que j'ai vue d'Isabelle Haché au Québec, et peut-être un article dans la presse anglophone, et je dis peut-être parce que j'ai un vague souvenir, il n'y a rien eu. Il n'y a rien, 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 rien eu. Et donc, on était vraiment, selon moi, on est dans un deux poids, deux mesures par rapport au contexte dans lequel on invoque la liberté d'expression et quand est-ce qu'on pense que la liberté d'expression est importante, d'où le titre du texte, La liberté d'expression sélective.
Fabrice Ville, pour terminer en 2 minutes, tu parlais de tourbillon, un sujet qui peut faire tourbillon jadis. Aujourd'hui, il y a une éducation populaire qui a été faite au fil des années qui fait qu'il y a un tabou qui est tombé au Québec. Jadis, on aurait parlé de santé mentale, ça aurait fait un tollé. Les gens auraient pu nous pointer du doigt, nous stigmatiser, on aurait pu perdre des amis. Aujourd'hui, la dose d'amour que reçoivent des personnalités telles que Michel Mambara, que nous avons reçu à l'émission, Varda Etienne encore, nous parlions avec elle aujourd'hui, elle sera à l'émission, oui, elle a eu un empêchement de dernière minute qui fait qu'elle ne sera pas avec nous ce mois-ci, mais pour le mois de l'histoire des Noirs, je pense que ça va être chose faite. Ils ont pris leur micro, hein, leur tribune, pour démystifier auprès des communautés noires, on peut le parler ainsi, ce qui étaient ces difficultés que pouvaient traverser des gens momentanément en ce qui a trait à la santé mentale. Toi-même, tu as pris ton courage à deux mains, tu as vécu quelques petites difficultés durant la pandémie, là, on va le voir ainsi, et puis, ben, écoute, tu as écrit là-dessus, afin de démystifier cette question et surtout d'expliquer comment tu as pu passer au travers grâce au support familial. Alors maintenant, la question est la suivante. L'importance d'être bien entouré par la famille, entre autres, comment ça peut nous aider à traverser moult situations, d'accord? Et également, le courage que ça t'a pris, si courage il fut, afin de pouvoir partager avec ton audience, qui est pas mal beaucoup, là, je te dirais, tu as des followers, toi, hein, des gens qui te suivent, ce pan de ta vie que franchement, tu as reçu toute une dose d'amour pour le courage qui fut le tien, mais on aimerait t'entendre. Ça t'a-tu pris ben du courage là, tu sais, pour nous écrire ça, nous partager ce pan de ta vie, également l'importance du soutien familial. On va terminer l'entrevue comme ça. Tu titres le 7, il y a quelques jours là, l'anniversaire d'une maladie. Écoute, belle pour la cause, on va voir ça déferler bientôt. Donc, on aimerait t'entendre, Fabrice. Voilà.
Ouais, ben je dirais que premièrement que j'avais pas de énormément de préoccupations quant au partage de mon texte. J'avais pas peur tant que ça des répercussions,
OK.
entre autres parce qu'il y a eu un travail de déstigmatisation qui a quand même été fait. Donc, tu as parlé de Michel Mambara, tu as parlé de Varda Etienne, deux personnes dont je parle dans mon texte.
Bien sûr,
Grâce
bien
à des
sûr.
personnes comme elle et tout le mouvement pour promouvoir la santé mentale, je me suis retrouvé, moi, à déjà, dans mon esprit, à pas me sentir complètement seul, pris au dépourvu. Donc, c'est aussi dans cet esprit-là que j'ai fait le choix d'écrire mon texte, de me dire, il y en a eu d'autres. Il y en a eu comme des prédécesseurs. Donc, moi, je vais continuer à ma manière. Et en le faisant, puis eux l'ont fait dans des moments où il y en avait des tabous, mais graves. Tu sais, Varda, entre autres, quand elle écrit son livre, puis elle parle des tabous, entre autres, dans nos communautés, c'est pas rien. Et donc, c'est dans cet esprit-là que je l'ai fait. Pour moi, c'est comme un peu de passer au suivant.
Yes.
Et. Selon j'en ai reçu plusieurs des messages. Ce que je constate, c'est que le combat n'est pas fini non plus. Il y a encore des tabous. C'est pas, les barrières ne sont pas totalement tombées. Donc, c'est de toujours continuer. Comme dans n'importe quel mouvement, ce n'est pas fini. Et donc, je suis content de voir que j'ai pu faire une petite contribution par rapport à cette question-là en lien avec ma propre expérience. Puis, par rapport au soutien. Si je situe, parce que, bon, la santé mentale, c'est très large. Les maladies mentales, il y en a plusieurs types. Dans mon cas, j'ai eu un épisode de manie avec en fait, une période de manie avec épisode psychotique. Donc, on parle des fameuses psychoses, j'en ai eu. Et ça a été suivi d'une dépression. La manie, dans mon contexte, on parle de maladie bipolaire qui m'a été diagnostiquée. La manie, elle donne parfois place à la dépression. Donc, j'ai été comme dans les deux. C'est comme si on respecte, là, c'est vraiment des hauts et des bas. J'ai eu les hauts et j'ai eu les bas. J'en parle parce que le soutien, d'en parler aujourd'hui comme ça, c'est relativement facile de l'entendre. On me voit, je suis bien, il n'y a pas de problème, mais le soutien, il est critique surtout quand la personne est en crise. Quand la personne, elle a des comportements qui sont inquiétants. Là, tu vas te dire, oh, lui, c'est un fou, c'est un ci, c'est un ça, parce qu'on est confronté à. Si je prends mon cas particulier, j'imaginais des choses, je disais n'importe quoi. Et c'est là où, si la personne entretient un jugement, il peut avoir un bris de relation.
Connexion,
Si
yes.
elle mélange, tu sais, on dit souvent, la personne malade n'est pas sa maladie. Elle n'est pas sa maladie, elle a une maladie. Mais si on perd l'amour pour la personne parce qu'on voit dans quel état elle est, mais ça porte des risques parce que finalement, c'est facile de perdre un appartement, de perdre un emploi dans ces situations-là. Moi, j'ai eu ma copine qui a été en accompagnement tout le long, prête à me recevoir là-dedans, sans jugement. Peut-être que c'est son expérience, elle a étudié en travail social, elle connaissait la bipolarité
Mais
dans son.
maman également, je pense, était en santé également. Donc,
Comment?
dans la famille, tu as des gens qui
Oui.
sont... Oui,
Mais
voilà.
ma mère est infirmière.
Eh bien,
Et
voilà.
c'est sûr et certain que mes parents ont eu un choc parce que je pense que c'est un choc de concevoir peut-être que j'étais bipolaire, mais malgré le choc, malgré quelques questionnements, et ils ont quand même, quand j'étais en interaction avec eux, été vraiment en soutien. J'étais au
Soutien,
palais de
soutien.
justice dans tout ce contexte-là. Mes parents étaient présents. Avec ma copine, il y a vraiment quand même eu cet amour-là, ce soutien-là. C'est sûr et certain que des fois, et puis je dis, moi puis toi et tous les auditeurs, il peut avoir certaines incompréhensions. Tu sais, je pense à mon père, qui a dit à un moment donné à ma copine pendant que j'étais en dépression, il dit, ah, je connais mon fils, tu sais, il a juste à se lever puis il va être capable. Tu sais quoi? On peut pas. Quand t'es en dépression, tu peux pas, tu
Ça
peux
se
pas.
passe.
Tu
Ouais,
peux
ouais,
pas.
ouais.
Mais c'est pas à moi qu'il l'a dit. C'est ça qui est quand même spécial. Il n'est pas venu me voir. Il l'a dit au passage
Ouais.
à ma copine, OK? Mais moi, il n'est pas venu me voir pour me dire, hé, hey, lève-toi. Donc, quand il me voyait, il était silencieux. Il attendait. Il attendait, il attendait. Donc, c'est déjà quand même un gros pas
Ouais,
qui,
ouais.
moi, m'a beaucoup aidé dans ma réhabilitation.
Super. Écoute, Fabrice, on te sent d'attaque. Le Québec t'aime. En tout cas, j'espère que tu le sens. Moi, je te le dis. Puis, tu sais, j'allais dire Coconut Podcast t'aime, mais tu as toute une équipe avec toi. Écoute, tu es partout. L'entrevue se termine. Toi, tu n'as pas besoin de cogner bien ben fort pour parler à l'équipe de Moffat, entre autres. Hein, tu es sous cette grande équipe, Moffat Management. Stéphanie Moffat, qui en est la présidente, la sœur de la grande Ariane, qu'on a reçue à Coconut.
Ah oui.
Alors, ouais, toute une entrevue incroyable. J'aimerais, parce qu'on sent que depuis que tu es avec cette équipe, ta carrière a pris tout un tournant. Tu es tout. Tu aurais quelques mots pour eux, très rapidement, pour le travail qu'ils font pour Fabrice Ville. On t'écoute.
Ah, ils font un travail extraordinaire. En fait, Stéphanie, que tu as nommée, Stéphanie Moffat, est toujours de bons conseils quand je l'appelle par rapport aux besoins que je peux avoir. Puis, elle a été présente aussi en soutien à moi durant la période plus difficile que j'ai eue. Donc, ça n'a pas été uniquement dans les grands projets, mais ça a été quand même une personne ressource en lien avec mon expérience de la dernière année. Dont on parlait un peu plus tôt. Puis quelqu'un qu'on voit moins, mais qui fait beaucoup de travail, Laurence Perrault dans l'équipe de Stéphanie Moffat. Donc, Laurence Perrault, qui est coordonnatrice au sein de l'agence, c'est avec elle, en fait, que j'ai le plus d'interactions quand elle coordonne mon travail. Donc, il y a bien du travail que je fais qui est soutenu par Laurence. Donc, l'équipe de Stéphanie et Laurence, une très belle équipe.
Écoute, Fabrice Ville, Coconut Podcast, on a eu la chance de faire le tour du Québec, aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Quand on t'a reçu, on disait peut-être on utilisait quelques langues. Là, on en connaît un peu plus. Alors, très rapidement, on a été en Abitibi. Nos frères et sœurs en langue algonquine, ils nous disent Miigwetch.
Ah, Miigwetch.
Ouais, par la suite, on a été dans le centre du Québec. Nos frères et sœurs en langue vers Odanak, en langue Abénaki, ils nous disent Oh, Léone.
Oh, Léoné.
Yeah, t'es bon. Ensuite, on est monté vers Ouachat, Maliotenam, pas trop loin de nos frères et sœurs Pessamites. Puis là, on a appris en langue innue, ils nous disent Chinash Kumitin.
C'est comment?
Chinash Kumitin.
Chinash Kumitin.
Yeah, excellent. Écoute, toi, t'es plus qu'un polyglotte. Puis là, on s'est rendu vers nos frères et sœurs Mi'kmaq, vers la Gaspésie, les îles de la Madeleine, territoire ancestralement parlant. Et là, eux, ils nous disent Wellaline.
Wellaline.
On a été voir nos frères et sœurs Huron-Wendat, on termine en 30 secondes. Eux, ils nous disent en langue Wendat, Tehawek.
Yeah,
Ben oui, puis là, on va faire un tour à Montréal, là, parce qu'on sait que ton agenda est hyper chargé, Fabrice Ville. Et là, nos frères et sœurs en langue Mohawk, eh bien, hein, voilà, ils nous disent Niawan.
Niawon.
Eh bien, Fabrice Ville, nous, c'est Haïtiens, petite Toussaint, petite Dessalines. Eh bien, Mabdou, yon grand merci, merci en pile. Ou soyons potomitan, regardez. Palagé, Kembela, des poubelles infantiles parler, tu nous appelles à Coconut, puis écoute, on va se jaser ça, puis le Québec va toujours être content de t'entendre via notre micro, entre autres, de Coconut Podcast. Sinon, on invite les auditrices, auditeurs à te suivre. Un toit pour nous, bien
Attends
sûr.
pour nous, oui.
Oui, excellent. Un toit pour nous. Et puis, ils peuvent aller écouter Sac Passé, Rito Joseph, Dorothy Rowe, comme si Safia Nolin, yo, Nadé, yo, t'en as reçu là, du monde. Fabrice, merci beaucoup. Et sur ce, passez une belle journée.
Eh, hey, mais ça en pile.
Yes! Eh bien oui, messieurs, dames, nous étions avec Fabrice Ville. Je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux, entre autres sur Instagram, mais surtout d'aller voir ce documentaire sur la plateforme de Télé-Québec, Ados et armés, ça en vaut le détour. Par le fait même, vous pourrez regarder également Briser le code. Ce fut toute une entrevue. On a appris à connaître Fabrice Ville sous l'angle Coconut Podcast, je vous dirais, prendre de ses nouvelles. Sur ce, comme j'aime bien vous le dire, on se revoit pour une autre entrevue sur les ondes de Coconut Podcast. Alors, je vous dis merci, Niawen, au revoir!